Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon, Camille Groc et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Pauline Laverdure. La gourmandise de ce matin est un extrait charmant d'un de mes livres de chevet, La route de Los Angeles de John Fante, traduit par Brice Mathieu-San. Je vous lis le passage. Ce matin-là, j'ai filé en douce aux toilettes et j'ai écrit au calme. Les mouches étaient innombrables. Elles planaient au-dessus de moi, se posaient sur mes mains et le papier. Des mouches très intelligentes. Elles lisaient sans aucun doute ce que j'écrivais. À un moment, je suis restée parfaitement immobile pour qu'elles puissent se balader sur ma page en examinant chaque mot à loisir. Les mouches les plus adorables que j'ai jamais connues. Après une maîtrise de philosophie et un doctorat d'esthétique, notre apothicaire de l'âme travaille comme lecteur dans différentes maisons d'édition. Stock lui propose de traduire le livre d'un antipsychiatre, ce dont le féru de la Beat Generation profite pour proposer à son tour une traduction plus à son goût, ce sera celle du poète américain Gary Snyder. Suivront un roman de Kerouac chez Christian Bourgois et plus de 200 autres traductions. Jim Harrison, Henry Miller, John Fante, Bret Easton Ellis, Thomas Pynchon, Joseph Heller, Charles Bukowski, Richard Ford ou John Updike pour ne citer que. En 1993, celui qui recevra 20 ans plus tard le prix Jules Janin de l'Académie française pour sa traduction de l'œuvre de Jim Harrison réalise avec Georges Luneau un documentaire sur l'auteur de Légende d'automne intitulé Entre chien et loup. Notre apothicaire ne chôme jamais, éditeur, écrivain, essayiste. Il a dirigé la collection fictive aux éditions Christian Bourgois et a co-dirigé celle de la Bibliothèque américaine au Mercure de France. Il a également longtemps enseigné l'histoire de l'art contemporain à l'École supérieure des Beaux-Arts de Marseille. Bonjour Brice Mathieu-San.
Bonjour.
Première question inévitable, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Alors, le rapport à la mélancolie, il est un peu ambigu parce que d'un côté, j'y vois, bien sûr, comme tous ceux qui ont écrit sur la mélancolie, une sorte de, d'état indésirable, angoissant, peut-être à soigner, mais avec beaucoup de pincettes, énormément de pincettes. Et en même temps, j'y vois un grand moteur critique et une grande manière de ne pas de dire non, de dire où je m'abstiens, où je préférerais autant pas.
Un retrait du monde, là.
Une mise à distance, et qui est indispensable à certains moments de l'existence. Vous avez l'air de dire que je suis un bourreau de travail acharné. Et que j'ai toujours été ça, c'est sans doute vrai, mais je me souviens de Jim Harrison qui disait qu'il y avait une sorte de calamité dont il était lui-même victime, c'était le travail. Et c'est quelque chose qui caractérisait pour lui l'univers protestant, donc américain. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas protestant, je suis pas américain, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des... L'excès de travail, c'est comme l'excès de loisirs, c'est quelque chose qui peut en effet mener à la mélancolie, sinon à la dépression, sinon au burn-out. Et je crois que la mélancolie, c'est dans cette ambiguïté-là qu'il faut peut-être l'aborder. J'avais envie, en arrivant, de faire un éloge de la mélancolie.
Comme étant une
manière de se mettre en retrait, de ne plus participer à tout, de ne pas être soumis à l'évaluation permanente, de se ralentir, de ne plus participer à ou collaborer ou être dans le flow, mais faire un pas de côté. Ça me rappelle que l'autobiographie de Jim Harrison, ça s'intitule En marge en français. Hein. C'était off to the side, c'est-à-dire un pas de côté. Et Jim Harrison est un assez bon exemple. Il était extrêmement mélancolique et extrêmement bon vivant. Donc il y avait une espèce de dédoublement de la personnalité qui faisait qu'il pouvait être les deux, mais mélancolique à un point très grave, à un point où il a été obligé de se faire soigner plusieurs fois. y a une image qui flotte un petit peu comme ça dans les souvenirs que j'ai de lui. C'est pas que je l'ai vu comme ça, mais c'est qu'il l'a raconté plusieurs fois. Au fond de son jardin, en hiver, immobile, toute la journée, avec de la neige qui s'entasse sur sa tête.
Ah oui, pas mal. Mais alors, Brice Mathieu-Sans, je ne sais pas si vous avez éludé la question, parce que peut-être vous êtes un être pudique. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous, vous vous considérez comme quelqu'un de mélancolique?
Non.
Pas du tout.
Parfois, oui. Parfois, mais il y a des alternances. Ce sont des éléments qui font que on est à la fois une chose et puis on est aussi son contraire.
Ça ne vous terrasse jamais?
Non. Ça ne m'a jamais terrassé jusqu'ici, non. À ma connaissance. Mais c'est toujours compliqué parce qu'à ma connaissance, j'ai jamais fait de dépression, mais on peut être dépressif sans le savoir, bien sûr.
Ouais.
Et sans s'en apercevoir, enfin. Et sans que personne ne s'en aperçoive. Et c'est d'ailleurs les cas les plus dangereux, je crois, hein. Mais je crois pas l'être réellement, non.
Bon, chers auditeurs, si vous avez de la neige sur la tête sans vous en apercevoir, faites quelque chose. Voici le sommaire. Dans quelques instants, Brice Mathieu-Sans convoquera, entre autres, des poulets, Édouard Manet, de la marche, des repas entourés d'êtres chers, Don Quichotte, Kafka, la générosité, la traduction Boris Vian et les Rolling Stones, juste après Kiev, de Vanessa Paradis.
Bye.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Brice Mathieu-Sang.
Mais ces as-là, ils vont me fâcher.
Non.
Ah, mais me fâche. Les peules, c'est comme ça.
Mais c'est pas mauvais.
Quelle race.
Le bon race.
Quelle race. Alors, je crois que finalement, ton commerce de poulet, là, on est parti pour un jour, on risque de faire un an.
1974, Cocorico, Monsieur Poulet, réalisé par Dallarou, le trio formé par Damour Ezika, Lami Brahim Dia et Jean Rouche. Une sorte de road movie franco-nigérien, une comédie un peu improvisée, caméra à l'épaule, façon reportage. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce film, Brice Mathieu-Sang?
Comment on pourrait décrire ce film? C'est une espèce d'épopée de road movie africain. Sans belle voiture, sans autoroute, mais sur piste, avec une vieille de chevaux qui tombe en panne.
Sans frein, sans rétroviseur.
Qui a beaucoup de problèmes, et à la recherche de poulets, qu'il faut essayer d'acheter pas cher et de vendre un peu plus cher, pour essayer de gagner sa vie, au jour le jour. Il y a quelque chose de picaresque dans les événements, dans tous les épisodes qui se succèdent. Sans queue ni tête, avec des rencontres de personnages qui apparaissent à un moment puis qui disparaissent deux minutes après, qu'on reverra pas ou qu'on reverra parfois.
Une sorcière
La sorcière, oui, qui en est une, qui en est peut-être pas.
Pas vraiment.
On sait pas très bien. On sait pas très bien d'ailleurs qui est vraiment acteur ou si tous ces gens ne font que jouer leur quotidien, si tout ça est mis en scène par Jean Rouche ou alors si au contraire il se borne à documenter une réalité qui est là et qui le précède. Et il y a toutes ces ambiguïtés là et cette manière qu'ont les personnages du film d'être à la fois des personnes, c'est-à-dire des individus qui jouent eux-mêmes, mais qui intègrent aussi le théâtre qui fait partie de leur vie. Donc il y a cette manière d'intégrer le théâtre comme étant le moteur même de l'existence au quotidien.
Jean Rouche disait que la fin du film était uniquement causée par la fin de la pellicule. Ça aurait pu durer vraiment éternellement. Et il y a quelque chose dans ce film, c'est qu'ils sont quand même dans la misère, mais rien ne les arrête et ils ont un optimisme à toute épreuve. Rien ne les atteint, rien ne les abat.
Non.
Ils vont même à un moment, ils doivent traverser le fleuve Niger.
Oui.
Et je vous laisse nous raconter ce qu'ils
vont
faire.
Je sais plus ce qui se passe.
Bah, ils prennent la voiture, ils la mettent dedans.
Ils la mettent dedans et puis après ils
comme
la tirent, c'est ça. Oui. Et puis ah oui, ils essayent de la faire flotter. Oui, ils la font flotter et puis ils enlèvent le moteur. Si ma mémoire est bonne, ils enlèvent le moteur, donc ils mettent le moteur dans la barque et après c'est la voiture qui navigue comme ça, qui traverse le fleuve. Bon, il y a comme ça des choses qui rappellent plein d'épisodes de romans picaresques qu'on connaît, et en même temps avec ce rapport d'amitié forte qui existe entre un blanc qui est ethnologue
ou
ethnographe, Jean Rouche, et puis ses amis qui sont en même temps les comédiens mais qui sont pas vraiment des comédiens, qui s'improvisent comédiens mais qui improvisent leur vie au fil de la pellicule. Oui.
Passons d'un poulet à une asperge avec un tableau de 1880 que vous affectionnez, Brice Mathieu-Sang. C'est l'asperge d'Edouard Manet. Alors, il y a une simplicité, c'est le contraire d'un roman picaresque. Il y a une épure, une simplicité.
Oui. Il y a une simplicité, en même temps, l'histoire est drôle.
Très drôle.
Enfin, elle est drôle, elle est très émouvante. Un commanditaire de Manet lui commande un tableau, et un tableau représentant une botte d'asperges. Il se met d'accord avec Manet. Manet s'inspire un peu de la peinture hollandaise du XVIIe siècle et lui fait une très belle botte d'asperges sur fond noir et lui fait porter le tableau. Il s'était mis d'accord sur un prix de 800 francs.
800 francs.
Bon, et le commanditaire lui paye 1000 francs. Et Manet, pour ce petit supplément, lui fait un second tableau, qui est beaucoup plus petit, qui est exécuté avec une espèce de désinvolture et en même temps de maestria, de maîtrise extraordinaire, qui représente une seule asperge en équilibre au bord d'une table en marbre, un peu comme un couteau dans la peinture hollandaise du XVIIe, hein, et lui envoie cette chose-là avec un petit mot en lui disant « Il manquait une asperge à votre botte ».
C'est magnifique.
Voilà, c'est très beau et je trouve que c'est à la fois un éloge de la peinture en tant que peinture et un refus de grands sujets. C'est-à-dire que la grande peinture peut à la limite se passer de sujets. On retrouve peut-être des choses qui sont liées à Flaubert aussi dans cette chose-là, cette volonté de faire un livre sur rien.
Oui, Madame Bovary.
le livre sur rien qu'il n'a jamais écrit, mais un livre sans sujet.
Mais c'était son projet pour Madame Bovary de faire un livre sur rien. Mais c'est pas vraiment un livre sur rien.
C'est un livre plutôt chargé, Madame Bovary. Oui.
Vous dites, Brice Mathieu-Sang, que toute œuvre d'art digne de ce nom vous met en joie. C'est un peu le résumé de cette émission, puisqu'en fait, cette émission, on essaie de trouver des petites parenthèses de grâce. Oui. Qui console de façon éphémère, puisque c'est toujours éphémère. Et souvent, la beauté suffit, et un chef-d'œuvre est largement suffisant, puisqu'il extrait de soi et élève.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, même les livres pas mélancoliques, mais les plus négatifs. Je sais pas, Thomas Bernhardt, Beckett, Sebald aussi, sont des livres qui sont des actes de vie et des actes de survie. Même s'ils décrivent une réalité terrible, ils sont dans leur existence et dans leur le désir qui a présidé à leur création. Ce sont des actes de résistance, peut-être, en tout cas de manifestation de la vie. Même si mais Kafka, c'était, on pourrait le dire aussi de Kafka, je pense, hein. Même si le fait, ça c'est peut-être l'autre pendant de la création littéraire, se fait au détriment de la vie, c'est-à-dire que toute activité de création littéraire oblige à la solitude, oblige au ressassement.
Donc abîme. Obligatoirement.
Abîme.
On est obligé de donner un lambeau de chair quand on
est. On est obligé de se mettre à l'écart, de se mettre en retrait.
De payer.
Et de payer ça d'une absence à la vie. Et de rater énormément de choses, de manquer énormément de choses.
C'est vrai qu'on peut s'interroger souvent sur qu'est-ce qui pousse à créer puisqu'on est hors de la vie. Et en même temps, Brice Mathieu-Sang, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites que tout acte créateur est justement dans la vie. Il y a des auteurs qu'on pourrait qualifier de nihilistes, mais en fait c'est une supercherie, puisque quand on pense à Cioran, qui est un peu un poseur très rigolo, ça ne peut pas être nihiliste à partir du moment où il y a une création. C'est le contraire du nihilisme,
bien sûr,
la création.
Oui,
ça demande un tel effort.
Absolument, oui. Même Beckett, tout le théâtre de Beckett, ou les textes de Beckett sont des manifestations de la vie, et en même temps des protestations peut-être contre les formes de vie qu'on propose à l'extérieur. Voilà.
Et ça vous
D'où la mélancolie, évidemment. D'où la mélancolie obligatoire, obligée.
D'être en marge.
La mélancolie de ne pas vivre à une autre époque, de ne pas vivre dans une autre culture, de ne pas vivre d'autres choses. Et la mélancolie qui est liée, je dirais même de manière consubstantielle, à l'activité créatrice. Puisque l'activité créatrice, elle a lieu à l'écart de la vie, obligatoirement. Je pensais simplement à Brecht. Brecht disait, j'adore écrire dans les cafés, au milieu de la liesse, au milieu des champs, au milieu de la folie. Je comprends pas très très bien comment il faisait, hein, sincèrement. Je pense qu'il y a quand même, chez la plupart des créateurs, en effet, cette nécessité du retrait, et peut-être d'une exaltation folle, mais en même temps du retrait de la vie, d'être à côté de la vie, sans aller jusqu'à faire de l'érémitisme à Croisset, hein. Mais en même temps, cette nécessité, Proust en est un excellent exemple.
Oui.
Se mettre en retrait, se mettre à côté, se mettre dans une cellule capitonnée, de manière à pouvoir se concentrer entièrement, non pas sur les activités de la vie et sur les mondanités, dans le cas de Proust, mais au contraire sur cette distance qu'il met et cette exploration de l'acte créateur, quoi. Oui.
Alors, on va se forcer à revenir un tout petit peu du côté de l'humanité, Brice Mathieu-Sang.
Oui.
Il y a à nouveau question de choses comestibles dans votre activité anti-spleen. C'est le repas partagé avec des êtres chers. Alors, est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous avez une recette?
Ah oui, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner pour les autres.
Pas pour vous?
Moins. Ça va beaucoup plus. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Il n'y a pas l'idée d'un plaisir partagé. Il y a l'idée d'un repas. Enfin, quand je suis seul, c'est plutôt l'idée d'un repas rapide. Voilà. Mais j'adore cuisiner pour les autres. Une recette, le risotto, voilà. Alors, le risotto, plusieurs risottos, hein, le risotto de fruits de mer, le risotto de légumes, le risotto avec des choses très différentes dedans, des crevettes, et j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup préparer ça. Alors, l'avantage, c'est que ça peut être fait pour 2 personnes ou ça peut être fait pour 20 personnes. C'est tout à fait faisable, il suffit d'avoir les instruments adéquats. Prendre le temps, parce que ça prend un peu de temps. Et puis, je sais pas, une bonne poularde, c'est quand même pas mauvais. Même une omelette avec une bonne salade, ça peut être très agréable. Voilà. Plutôt salé.
Salé.
Plutôt salé, oui.
On reste du côté du corps. il y a une activité qui revient, je crois que c'est l'activité qui revient le plus dans cette émission, ce qui est peut-être le signe de son efficacité, c'est la marche. Brice Mathieu-Sang, à quelle fréquence marchez-vous? Et est-ce que vraiment, quand le corps est engagé, ça change, selon vous, la physionomie?
Les endomorphines produites par le cerveau au bout d'une heure de marche.
Endomorphines, il y a carrément morphine dedans.
Bien sûr. Oui, ce sont des morphines qui sont générées par le cerveau lorsque l'effort physique est prolongé et régulier.
Je connaissais l'endorphine, donc, mais pas l'endomorphine.
Alors, c'est peut-être les endorphines, peut-être je me trompe. C'est moi.
Non, mais endomorphine, c'est beaucoup plus romanesque.
Les endomorphines, bon, on va appeler ça les endomorphines oui. Pour l'émission, puis après on verra. Mais je crois que c'est quelque chose que tous les marcheurs ont vécu plus ou moins consciemment. Mais c'est quelque chose, en tout cas, je pense par exemple à Thoreau, que j'ai traduit, oui. Walden et le journal, lui marchait 4 heures par jour. Bon, je ne marche pas 4 heures par jour. Mais ça m'arrive, par exemple, à Paris, de marcher 2 heures, 3 heures, sans but, de flâner.
Chaque jour
Quand je suis à Paris, oui, parce que j'habite pas à Paris, j'habite à Marseille. Et à Marseille, de marcher beaucoup plus que ça, beaucoup plus qu'à Paris. Et je pense que c'est une activité qui, en effet, est une activité de, en même temps, de découverte, de retour à soi et peut-être de réflexion, puisque toute l'action est mobilisée par le mouvement des jambes, la réflexion peut se produire en même temps.
À nouveau, ce retrait en soi pour mieux habiter le monde par la suite, Brice Mathieu-Sang. Dans un instant, on va découvrir votre sérum littéraire, le temps d'écouter Harmony Hall de Vampire Weekend.
Took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins, and the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die.
Oh, Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Brice Mathieu-Saint.
Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, une fin de l'histoire chante en moi.
1968, l'adaptation française par Jacques Brel de la comédie musicale américaine L'Homme de la Mancha, inspirée par Don Quichotte de Cervantes. On entend le morceau Suivre l'étoile. Et je viens de révéler l'un de vos sérums littéraires, Brice Mathieu-Saint, parce que ce fut difficile d'en choisir un. Don Quichotte, dans la traduction de Jean-Raymond Fanlot.
Oui. Bah oui, Don Quichotte, dans la traduction de Jean-Raymond Fanlot. Pourquoi Don Quichotte? Parce que c'est le monde entier qui est convoqué là, en tout cas toutes les passions humaines, et en même temps, une sorte de folie par rapport à ce qu'est l'illusion romanesque. Le lecteur est comme Don Quichotte dans sa position de lecteur, c'est-à-dire il croit à la réalité de Don Quichotte, alors que Don Quichotte, ce n'est que des mots sur du papier. Et Don Quichotte lui-même, il y a une espèce de mise en abîme de la position du lecteur. Don Quichotte lui-même, il croit voir des armées qui viennent l'affronter, alors que c'est juste un troupeau de moutons.
Ou des grandes dames, alors que ce sont des prostituées.
Voilà, il confond les auberges avec des châteaux, les aubergistes avec des châtelains, etc. Donc il est dans une sorte d'illusion absolue par rapport au réel, qu'on peut qualifier de folie. On parle de sa folie, d'ailleurs. Sancho Panza n'arrête pas de lui dire « Mais vous êtes fou, mais en même temps, vous m'avez promis mon île, mon île. Donc je serai gouverneur, et là j'espère que ce n'est pas de la folie, là j'espère que c'est pour de vrai. » Et le lecteur se retrouve dans cette position-là, il y a un effet de miroir qui est assez violent, qu'on ne veut pas voir d'ailleurs en général, mais qui fait du lecteur une sorte de fou aussi, qui se met à croire à l'illusion de ce que la fiction essaye de lui raconter. Bon. Et il y a aussi cette espèce de contresens qu'on fait sur Don Quichotte. C'est-à-dire, dans le langage commun, c'est l'un des rares personnages de roman qui est rentré dans le langage commun. On dit, il fait du Don Quichottisme, il est comme Don Quichotte. Donc, ça veut dire, dans le langage commun, ça veut dire s'attaquer à des objectifs qui sont inaccessibles. Or, Don Quichotte, c'est pas ça du tout. Lui, il se bat jamais, en fait. Ou il se fait rosser.
Il se bat parfois. Par exemple, l'épisode des prostituées dans ce qu'il prend pour un château, il fend la tête de gens qui viennent chercher leurs affaires en pensant qu'ils sont ses ennemis.
En fait, il ne défend jamais la veuve et l'orphelin comme il le...
Oui, comme il voudrait le faire. Et voudrait le
chevalier.
Faire.
Il voudrait le faire.
Mais il est assez courageux.
Ça lui arrive jamais. Oui, il est courageux. Mais en même temps, il se trompe toujours. Il se trompe toujours, donc c'est quelque chose qui est lié sur l'erreur, sur l'illusion, et je pense que ça rejoint tout à fait la situation, la position du lecteur, qui se met à croire, presque parfois de manière plus réelle que sa propre réalité, à ce qu'il lit.
Et justement, Brice Mathieu-Saint, je ne peux m'empêcher de penser à Cocorico Monsieur Poulet qu'on a évoqué tout à l'heure, dans le sens où ce sont des personnages qui ne se découragent jamais. Et vous dites qu'ils sont dans l'illusion. L'illusion est-elle nécessaire, selon vous, pour survivre?
Comme on vit dans un monde de fiction, au quotidien, sans le savoir, à notre insu, je pense que l'illusion fait partie consubstantielle de la réalité, et que il faut bien transiger avec ça. Enfin, il faut bien arriver à négocier, pas transiger. Il faut arriver à négocier avec ce rapport à l'illusion qui fait notre réel. Oui, et c'est vrai que Cocorico, Monsieur Cowboy,
Monsieur Poulet, c'est drôle, Monsieur Cowboy.
Cocorico, Monsieur Poulet. Il y a aussi ce mélange absolu qui existe entre le jeu et la réalité. Et c'est quelque chose qui fait le charme du film.
Mais dans vos romans aussi, Brice Mathieu-Saint, Identité française ou Vengeance du traducteur, il y a beaucoup de loufoquerie, il y a beaucoup de flirt justement entre l'illusion, le réel, vous brouillez les pistes.
Oui. Ben oui, parce que je pense que le roman peut se permettre dans certaines occurrences de remettre sur le tapis ce problème du rapport entre ce qui est de l'ordre du fantasme et qui est peut-être le propre de l'écrivain et la confrontation dure au réel. Et je pense que c'est quand même un thème qui concerne tout le monde, qui concerne non seulement les lecteurs mais même les gens qui ne lisent pas évidemment, et qui fait le sel peut-être, en tout cas un des ingrédients de la littérature. Oui.
On continue de se positionner à la frontière de l'extrême lucidité et de la folie, puisque vous avez également choisi, Brice Mathieu-Sand, un roman que vous avez traduit pour Grasset, Catch 22 de Joseph Heller. Joseph Heller s'est inspiré de son expérience personnelle, c'est un grand roman satirique, c'est une escadrille d'aviateurs basée sur la petite île italienne de Pianosa pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il y a ce héros, Yossarian, un héros tragicomique qui pense qu'on veut le tuer, et puis il y a cet article, Catch 22. Mmh. En quoi consiste-t-il ?
Alors l'article, c'est un article qui permet à la hiérarchie de justifier les mesures les plus absurdes et les plus même dramatiques. Et c'est une espèce de double bind. Vous répondez par oui, vous êtes piégé. Et si vous répondez par non, vous êtes aussi piégé. Donc on est obligé d'augmenter, d'accomplir un nombre de missions de plus en plus délirants, avec des objectifs de plus en plus stupides ou dangereux. Et la hiérarchie militaire, c'est évidemment une espèce d'allégorie à l'intérieur de cette petite escadrille. Il faut comprendre le fonctionnement de la société dans son ensemble. Et en même temps, avec ce personnage qui cherche à tout prix à s'évader, à partir, à quitter cet enfer où le sadisme est quotidien, où les humiliations et le désir de faire du business à travers la guerre. Il y a beaucoup de personnages qui sont des aviateurs, mais qui sont avant tout des businessmen, qui organisent des missions avec la complicité de la hiérarchie, des missions pour récolter tout le coton égyptien, par exemple, au nom d'impératifs militaires entièrement imaginaires. Donc il y a une espèce de léger glissement permanent vers des missions de plus en plus délirantes, et ça donne une image comme ça de la société qui est à la fois extrêmement rigide sur un règlement, avec au centre du règlement cet article, l'article 22, le fameux article 22.
Qui est rentré dans le langage courant
aux
États-Unis.
It's a catch 22 situation, ça veut dire c'est une situation dont on ne peut pas sortir. Non. On ne peut pas s'en tirer, on est cuit de toute façon. On est foutu de toute façon. Bon. Là encore, c'est comme Don Quichotte, c'est quelque chose qui est passé de la littérature dans le langage courant. Il y a peu de personnages où on dit parfois c'est kafkaïen, on dit parfois des choses comme ça. Bon, mais il y a peu de romans qui ont donné dont certains éléments sont passés dans des personnages ou des situations sont passés dans le langage courant. Et c'est un livre que je trouve extraordinairement roboratif parce qu'il montre la volonté absolument intraitable de ce personnage qui est plutôt un faible au début, Yossarian, et anonyme, c'est tout ce qu'on saura de lui. Il s'appelle Yossarian, voilà. Mais c'est comme d'autres personnages dans d'autres romans qui portent juste un prénom, voire une initiale, K, et dont on ne sait rien, qui sont des personnages anonymes, mais qui peuvent évidemment représenter n'importe qui, et qui malgré leur fragilité arrivent à force d'obstination à échapper à un système mortifère.
Il se peut que le personnage qui a, je dis le personnage mais non, l'homme qui a inventé K fasse une apparition dans l'émission tout à l'heure. Brice Mathieu-Sand, votre idée consolatoire, c'est l'amitié, la générosité, la conviction qu'en écrivant et en traduisant, on défend un rapport au monde à la fois critique et chaleureux, fait de colère et de solidarité, donc le contraire de la mélancolie improductive. Ça reprend un peu l'idée que vous souleviez tout à l'heure, mais pour vous, l'écriture, c'est toujours lié à la colère ?
Moi, oui. Dans mon cas, oui. Chez les autres, bien sûr que non. Mais c'est souvent la colère qui me porte à inventer des situations où l'élément contre lequel je m'insurge va être disséquer ou analyser ou ridiculiser, en tout cas aborder sous plusieurs angles. Par exemple, dans Vengeance du traducteur...
Votre métier.
Oui, je pensais que le traducteur était insuffisamment exploité en tant que personnage de fiction.
Parce que ça, je le dis pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, Vengeance du traducteur, ça commence par des notes de bas de page très très longues, oui, qui prennent de plus en plus de place sur la page, puisque c'est le traducteur qui vole la vedette en fait au roman et aux personnages principaux.
C'est ça, exactement, oui, c'est ça. Et donc je pensais que un traducteur bavard et en colère était un bon argument, un bon moteur pour une fiction.
Oui, puisqu'il se moque même des autres traducteurs, il se moque des...
Oui. Il se moque de la déontologie du traducteur, il se moque finalement de il transgresse toutes les limites qui sont assez strictes dans le travail de traduction auquel il a été soumis jusqu'ici. Et évidemment, ce qu'il produit comme texte n'a pas grand-chose à voir avec une traduction en bonne et due forme. Mais c'est un texte périphérique, bavard, et qui finalement coagule pour faire un vrai roman.
Oui.
Donc je raconte finalement l'histoire de comment on devient écrivain en partant du métier de traducteur, ce qui était mon cas.
Et vous m'avez dit, hors antenne, Brice Mathieu-Sang, que ce livre allait être traduit en anglais, ce que je trouve vraiment... Enfin, je souhaite bon courage à la traductrice.
Oui, elle s'en est bien tirée, oui, j'ai regardé un peu son travail. Je suis très très content de ce qu'elle a fait, oui. Oui, elle a été obligée de rajouter un étage à la fusée, aussi.
Oui.
Oui, parce que c'est un ça raconte l'histoire de la traduction d'un livre en français, et comme mon propre livre est traduit en américain, je dis en américain parce que c'est une maison d'édition de Dallas, au Texas, ce qui est assez stupéfiant, je connaissais pas cette maison. Et donc dans ce nouveau passage de texte, il a fallu inventer un nouvel étage à la fusée, oui.
Bien, j'ai hâte de voir le résultat pour les auditeurs intéressés. Vengeance du traducteur chez POL. Il est temps de découvrir, Brice Mathieu-Sang, vos antidotes musicaux. Et le premier est chanté par un homme qui a fait beaucoup de choses, mais qui fut aussi traducteur.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Brice Mathieu-San qui vient de nous faire entendre un morceau de 1955, La complainte du progrès de Boris Vian sur une musique d'Alain Goraguet. Pourquoi ce choix, à part l'extraordinaire inventivité de Vian?
Mais parce que je pense qu'il y a inventivité et aussi inventaire. L'inventaire de la machine à laver, de la tourniquette et de tout ça, et dont il se moque joyeusement.
Le repasse-limace, le chasse-filou.
Voilà, tout ça avec une inventivité de langage aussi dans l'inventaire. Bon, la vie est ailleurs. La vie est ailleurs. Donc, j'ai trouvé bien, comme remède à la mélancolie, d'avoir une colère douce, une colère tendre, une sorte de critique désinvolte et amusée.
Du matérialisme.
Du matériel disponible. Voilà, du matériel disponible en grande surface. Bon, et je trouve que c'est un bel exemple de comment dire d'humour caustique. Voilà.
Propulsons-nous en 1969. Can't always get what you want des Rolling Stones sur l'album Let It Bleed. Qu'est-ce que ça vous évoque, Brice Mathieu-San?
Alors moi, ça m'évoque Marcel Proust. Pourquoi? On ne peut pas toujours avoir ce qu'on désire, mais quand on obtient ce qu'on désire, on est déçu. On est déçu. Et donc on est mélancolique, puisque on s'aperçoit, et Proust a des pages merveilleuses sur ce thème, on s'aperçoit que le fait de désirer était mille fois plus
excitant,
exaltant, plus bouleversant que le fait d'obtenir ce que l'on désire. Et il a aussi cette image qui est très très belle, c'est que lorsqu'il embrasse enfin la personne qu'il aime depuis tellement de temps, quand on embrasse quelqu'un qu'on aime depuis tellement de temps, on ne le voit plus puisqu'on est tellement près de son visage qu'on ne peut même plus le voir. Donc lorsque le désir s'accomplit, on n'obtient pas ce que l'on a voulu, ce que l'on a désiré. Et je trouve que les paroles de ce disque des Rolling Stones, de ce morceau, des Stones, sont très proustiennes.
Nous serions tous aussi heureux si nous n'avions pas de livres. Et des livres qui nous rendent heureux, nous pourrions à la rigueur en écrire nous-mêmes. En revanche, nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes, comme un suicide. Un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Voilà ce que je crois.
On est lyrique dans cette émission. Laure Grand-Besançon lit l'extrait d'une lettre de Kafka à son ami l'historien de l'art Oscar Pollack, écrite en janvier 1904 et dans laquelle figure la citation qui vous appuie, Brice Mathieu-San. Un livre doit être la hache pour briser la mer gelée qui est en nous. Tout d'abord, d'où vient cette mer gelée selon vous?
Sans doute une métaphore ou une image ou... Je crois que Kafka est toujours très fort pour nous faire sentir qu'il nous présente des symboles, mais de quoi, on ne sait pas très bien. La métamorphose, c'est le symbole de quoi, on ne sait pas. On est convaincu, le château, c'est la même chose. C'est sans doute un symbole très fort, très puissant, mais en même temps de quoi, on n'en a pas vraiment la certitude. Personne n'est capable de le dire, et ça serait très dommage de dire c'est le symbole de quelque chose, et l'affaire est close. Et de même, cette mer gelée qui est en nous est quelque chose qui pose question, qui est quelque chose qui doit nous parler, qui peut nous parler de manière différente chaque jour, mais qui est peut-être un objet là pour le coup de mélancolie, c'est-à-dire que notre ce qui est en nous se ressemblerait non pas à un jardin verdoyant, mais plutôt à une mer gelée, et une mer gelée qui aurait besoin d'un grand coup de hache. Et la seule hache que Kafka aurait à sa disposition, ça n'est pas une arme d'une armée, ce n'est pas la parole d'un messie, c'est un livre. Et quand Kafka dit un livre, c'est évidemment un livre digne de sa conception de la littérature, c'est pas n'importe quel livre. Et donc la mer gelée doit être fendue pour qu'on arrive peut-être à une sorte de fluidité, puisqu'il y a cette idée de la mer qui ne serait plus une banquise stérile, mais qui serait peut-être un lieu où la vie pourrait arriver.
On termine sur cet éloge de la lecture. Merci beaucoup, Brice Mathieu-Sand, d'être venu dans cette émission.
Merci à vous. Merci.
Chers auditeurs, allez vous faire une carte de bibliothèque. Mais voici la désannonce. Brice Mathieu-Sand, votre dernier roman est paru chez Phébus sous le titre Identité française. Vos dernières traductions sont deux titres de Jim Harrison paru chez Flammarion, Légende d'automne et Un sacré gueuleton, et La générosité de la sirène de Denise Johnson chez Christian Bourgois. Deux autres de vos traductions vont paraître dans quelques temps, La crue d'Amy Asinger aux éditions Rue de l'Échiquier et Sur la route et en cuisine de Rick Bass chez Christian Bourgois. Apparaître aussi vos carnets de voyage à Saint-Pétersbourg qui s'appelleront Les jours noirs chez Arléa, et fin août votre roman Le joueur et son ombre chez Phébus. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes évoqués sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a maintenant l'éclat d'une robe de pivert fluorescente. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.